Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons et terminons cette série aujourd'hui de l'importance de la rédemption. Donc, le thème était surtout concentré sur la guérison. Nous sommes donc à l'étude numéro 56. Dans l'étude précédente, je vous ai donné quelques témoignages et nous aurons un témoignage, on peut dire extraordinaire, de Mademoiselle Elisabeth Winter. Et cette guérison-là, elle concerne une professeure de sciences et elle l'a décrite de façon objective, précise, sans émotionnalisme. Aussi, je vous lis un extrait de son journal intime. On peut y voir comment les résultats ont engendré la conviction de la réalité de la puissance de Dieu, comme on peut dire comme on ne les connaît pas ou pas beaucoup dans la science ou dans l'esprit d'un scientifique. Je savais déjà par expérience que Dieu pouvait guérir, c'est ce qu'elle dit, mais je pensais que ce n'était que pour notre propre foi, ou plutôt par notre propre foi. J'ai suivi un traitement très lourd pendant 4 ans et demi pour un dysfonctionnement de la thyroïde et une dystrophie des glandes. Je devais avaler beaucoup de comprimés par jour et subir 2 piqûres par semaine. J'étais sceptique en ce qui concerne l'imposition des mains et je riais plusieurs fois. Mais je ne pensais jamais à le demander pour moi-même. Je pensais que si j'avais eu assez de foi, j'aurais peut-être guéri. Je suis allé au rassemblement où on parlait de rassemblement au service de la guérison. J'y suis allé uniquement pour voir s'il y avait un grain de vérité dans toute cette affaire. J'ai beaucoup aimé cette réunion, mais je ne pensais pas que des gens y recevraient la guérison à ce moment-là, mais peut-être plus tard, lorsqu'ils auront assez de foi. Je ne priais pas beaucoup pendant ce temps-là. Samedi, je n'avais plus la conviction. Il y avait beaucoup de débats et de tentatives d'arrangement. Jamais quelqu'un n'a pu me convaincre. J'ai lu 2 livres sur la guérison. J'ai vu une grande personnalité qui est spécialisé dans ce domaine et qui était également le gérant des rassemblements dans le Nord. Il fallait que je réfléchisse encore une fois en étudiant l'Évangile qui ne sont pas seulement les Écritures saintes, mais un commandement pour nous. J'ai téléphoné au médecin et j'ai décidé d'y aller. Dimanche, déçu, je n'avais pas d'émotion pendant le culte. Je ne sentais rien quand j'entendais les témoignages. Pendant le service de la guérison, le souvenir d'un texte de quelques mois en arrière m'est revenu. Quelque chose au sujet de « Dans quelques jours, tu seras guéri. » C'est ce que je croyais entendre dans ma pensée, dans mon esprit. Déjà, j'avais calculé que ce sera en février, mais à ce moment-là, je pensais que ce serait pour une autre personne, surtout pas pour moi. Je suis allé à la barre devant, juste après 8 heures, donc 20 heures, pour voir ce que Dieu fera pour moi. J'étais certaine que c'était sa volonté, que j'étais tout de même là. Il n'y avait ni de l'émotionnel, ni même la foi. Tout de même, je comptais sur la guérison, quand même. Aussitôt que les mains touchèrent le cou, par l'imposition des mains, je sentais une brûlure profonde, non pas diffuse, mais concentrée selon un dessin irrégulier, ceci non seulement sous les doigts de Madame Salomon, la chaleur était surprenante et même inconfortable, oui, on peut dire inconfortable. Je m'attendais à de la chaleur à la base du crâne si elle devait arriver quand les mains étaient là. Je retournais à ma place et toujours pas de sentiment particulier. La brûlure persista toute la soirée, d'abord dans la glande de la thyroïde, sur la surface de la peau et le muscle du cou. Je sentais la gorge comme si j'avais bu un alcool très fort. La chaleur brûlante était beaucoup trop forte pour être confortable. Il y avait la sensation que procure une bouteille d'eau chaude pour soulager le rhumatisme musculaire. La chaleur se déplaça un peu vers la gauche, dans la région de la thyroïde. Plus tard, dans la soirée, il y a eu au moins, on peut dire, de la chaleur, mais un peu moins que d'habitude, dans la région de la thyroïde. Et la thyroïde s'était déplacée, on aurait pu dire, vers les amygdales. Où est-ce que c'est la chaleur? Et puis la chaleur est partie dans les oreilles, surtout celle de gauche. Tout ce que cette scientifique écrit est absolument vrai, et vous qui écoutez cette étude, il y a des choses qui peuvent peut-être vous surprendre, et je m'en excuse, mais c'est la stricte vérité ce que cette scientifique nous témoigne. Elle continue. Le lendemain, la chaleur était toujours là, et elle était là lorsque je mangeais ou que je buvais quelque chose, même le dimanche au soir. On pouvait voir, en quelque sorte, l'empreinte des doigts au cou pendant une heure et demie. La marque a vite disparu. Les amygdales étaient très enflées, mais le soir, à 23h30, elles étaient beaucoup plus petites. Peu après mon retour dans le banc de l'église, j'étais consciente que la circulation du sang était beaucoup meilleure. Le sang semblait arriver jusqu'à la surface du corps et de la peau, et ceci a continué. Pardon. Donc, excusez-moi. Après le retour dans les bancs de l'église, nous avons chanté deux cantiques, puis quelque chose est arrivé au cou et également aux épaules. Donc, je répète, elle a dit, après le retour dans les bancs de l'église, nous avons chanté deux cantiques. Puis quelque chose est arrivé au cou et aux épaules. Les épaules furent brusquement tirées jusqu'à ce qu'elles étaient toutes droites, parallèles au dossier du banc. Pas de mouvement à la hauteur de la ceinture, seulement au-dessus de la région du thorax. La tête et le cou s'étendirent vers le haut. La pression qui provoqua le mouvement ne venait pas de la colonne. C'était comme s'il y avait eu une lavette autour du cou, sous la tête, pour enlever la pression, surtout derrière. Mais je ne sentais aucune pression sur la peau dans cette région-là. La tractation du cou causa un mouvement vers le haut de la tête. Ces mouvements étaient hors de mon contrôle. Soudain, il y a eu une grande tractation et la colonne vertébrale fut redressée. Dans un long agissement, elle fut redressée d'environ 6 pouces. Je sentais le grincement des vertèbres. C'était du reste si fort que les voisins auraient pu l'entendre. Aujourd'hui, mon cou s'est allongé derrière. Jamais je n'éprouvais de douleur pendant ces mouvements de muscles et personne n'avait parlé d'une courbature, mais je savais que j'avais les épaules très rondes. Il y a quelques semaines, le coiffeur m'avait dit que je n'avais absolument pas de cou. On peut dire que la tête était appendue aux épaules. Je me sentais un peu différente et un peu terrifiée tout de même. En marchant le long de la rue, il m'était difficile de garder les chaussures aux pieds. Les jambes gonflaient vers le soir, quand elles étaient fatiguées. Et j'avais besoin de semelles spéciales pour les mêmes chaussures. Lundi matin, les épaules n'étaient pas encore dans la position originale. Malgré que je sois rentré très tard le soir, je me sentais beaucoup plus fraîche. Je n'étais plus obligé de fumer une cigarette pour me réveiller avant de me lever le matin. Je m'habillai et je commença de prendre le petit déjeuner avant même de me rendre compte que je n'avais pas bu mon café. J'avais toujours besoin d'un café avant de m'habiller. La tête beaucoup plus claire, comme si on m'avait enlevé un poids du cerveau. Je n'avais pas pris de médicaments jusqu'au petit déjeuner. Lundi, 13h30. Lundi, la tête et le cou se redressèrent vivement encore une fois. Je ne pouvais pas finir le déjeuner. Je n'ai pas pris de produits pharmaceutiques ce jour-là. La tête tout à fait claire, après avoir passé une journée pleine d'occupations, j'étais fatigué, mais pas du tout comme d'habitude. 22h30, je me couche et me détends pour la première fois. Les mouvements d'étirement recommencèrent accompagnés d'une sensation de pression à plat à la base du crâne. J'ai compris que je pouvais contrôler mes mouvements, mais aussitôt que je me détendais, ils recommencèrent. Je ne peux par contre pas les déclencher moi-même. Tout à coup, je réalisa que les rhumatismes dans la jambe gauche avaient totalement disparu. Pendant longtemps, je ne pouvais pas dormir. Les douleurs avaient disparu totalement. Mais je sentais encore la douleur de la piqûre sur la cuisse gauche de vendredi passé. Mardi, j'ai pris une dose de comprimé pendant le déjeuner, la tête beaucoup plus claire. Mercredi, j'ai pris deux doses de comprimé, de bonne heure le matin et au déjeuner. J'avais mal à la tête et je devais prendre une aspirine. Prenez bien note, car le mal de tête ne venait peut-être pas de ce que le Seigneur était en train d'arranger en moi, mais certainement ce mal de tête est venu des comprimés que j'ai pris et que je n'aurais peut-être pas dû prendre. Resté au lit l'après-midi, l'étirement recommence, cette fois dans toute la colonne vertébrale, surtout dans la région lombaire. Le cou avait l'air d'être remis en état. On a parlé de la rectitude des épaules. Jeudi, la colonne encore droite, libérée des chaussures, je dois avoir une talonnette. Vers la fin de la réunion à 19h45 du soir, je sentais la même chaleur que le dimanche, mais cette fois dans le bas du dos. C'était peut-être une illusion parce que ce n'était pas si fort que la première fois. Plus tard, la chaleur monta la colonne et se localisa à la base du cou. Encore là, à 23h du soir, après avoir marché à pied environ 1 kilomètre dans l'air frais, aujourd'hui j'ai réalisé que la jambe gauche, une vieille blessure, ne me faisait plus mal quand je marchais rapidement. Un mois plus tard, plus de comprimés pendant 4 semaines, pas besoin de piqûres non plus. La tension beaucoup meilleure. Bien sûr, le dos encore droit, surtout au cou et à la taille. Les pieds plus du tout gonflés. Les jambes ne faisaient pas mal. Les cheveux étaient devenus plus doux. Je peux facilement sentir toutes sortes de choses. Je peux marcher longtemps et même rapidement, même en montant, ce que je ne pouvais pas avant. Je ne peux plus porter certains vêtements à cause du changement du corps. Étant instruite, je pensais que Dieu agissait par des lois naturelles et que la guérison viendrait graduellement, mais dans un ordre normal. Or, cette guérison soudaine, la localisation de la chaleur dans les membres blessés du corps montrait qu'il avait coupé, on peut dire, à travers ces lois de l'univers. Cela met donc une nouvelle lumière sur le mot « miracle ». Je ne le comprends pas, mais je dois dire que c'est arrivé. J'ai attendu un mois pour voir que la guérison était permanente. Il n'y a pas de rechute du tout. Bien au contraire, la santé devient beaucoup meilleure chaque jour. Le médecin dit que je devais continuer ainsi. Cela m'a fait grand plaisir. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Chers amis, il est sûr que vous avez ici quelqu'un qui croit après avoir été une sceptique. Et comment? Je crois. que j'ai éprouvé toutes les promesses du Christ par expérience le 3 mars 1953. Le 19 mai 1953. Maintenant, je ne prends plus du tout aucun médicament et aucun stimulant. Je n'ai plus besoin de piqûres depuis 3 mois et il n'y a pas de rechute. L'amélioration de la posture est restée absolument stable. 4 mois plus tard, ma guérison est permanente et la santé va beaucoup mieux chaque jour. Mon expérience par l'imposition des mains m'a aidé à comprendre les promesses de Jésus-Christ et de les pratiquer moi-même maintenant pour les autres personnes qui viennent me voir pour demander de l'aide. J'ai donné maintenant ma vie, le restant de ma vie, pour servir le Seigneur, car il peut guérir des centaines d'autres quand il m'a guéri d'une façon si extraordinaire. Je trouve que la prière est une puissance merveilleuse. Elle est une chose vivante pour les problèmes de ce monde. Amen. Et c'est là que, donc, le témoignage de Elisabeth Winter se termine. Chers amis, la guérison est ou devrait être une étape majeure afin de gagner les non-croyants à Christ et de permettre aux enfants de Dieu de connaître la plénitude. Voyez-vous, Jésus demanda à ses apôtres de proclamer la foi, ce qui inclut la guérison des malades et l'expulsion des esprits malsains. Il est intéressant de voir que ses derniers mots pour ses disciples étaient, selon le livre de saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez, a dit le Maître, allez et faites de tous les pays des disciples, leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » Nous les croyons. Nous oublions d'observer ses commandements. Croyons-nous savoir beaucoup mieux que Jésus? Le ministère de guérison est davantage encore celui de la délivrance. Cela peut présenter des lacunes. En effet, un tort assez considérable peut être causé dans les deux domaines s'il n'y a pas un enseignement pratique et biblique. Une des erreurs communes du ministère de guérison est qu'il se préoccupe trop de la santé physique. Cependant, c'est une façon de voir qui réduit le pouvoir créatif de Dieu qui créa la personne entière, corps, âme et esprit. Ce qui est dans l'esprit peut affecter le corps. Un refus de pardonner, par exemple, peut avoir des effets dévastateurs sur le corps d'une personne. Nous avons vu des problèmes physiques se résoudre instantanément par le simple fait d'aider d'abord les souffrants à se repentir de leurs péchés et à recevoir le pardon de Jésus. Je répète, nous avons vu et constaté des problèmes physiques qui ont pu se résoudre instantanément par le simple fait d'aider d'abord les souffrants à se repentir de leurs péchés et à recevoir le pardon de Jésus. Les différentes parties qui composent la plus complexe des créatures qui est l'être humain réagissent les unes sur les autres. Dieu est le Dieu de la personne tout entière et la guérison chrétienne est là pour réaliser le pardon ou le shalom de Dieu sur l'intégralité de la personne. Je répète, Dieu, Yahvé l'Éternel, il est le Dieu de la personne toute entière. Et la guérison chrétienne est là pour réaliser le pardon ou le shalom de Dieu sur l'intégralité de toute la personne. Il est un air que la chorale aime. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais, chers amis, ces paroles sont un exemple flagrant de citation non appropriée de l'Écriture sainte, car en lisant Exode chapitre 15, verset 26, on s'aperçoit que la promesse de Dieu pour la guérison, elle se trouve au conditionnel. Car il est dit, écoutez bien, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu te tiens à toutes ses préceptes, alors je suis l'Éternel qui te guérit. Je répète, il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et si tu te tiens à toutes ses préceptes, alors, oui, je suis l'Éternel qui te guérit. Combien il est nécessaire d'écouter l'Esprit Saint, de l'écouter d'une oreille sensible, tandis qu'il nous conduit à travers le problème, qu'il confronte la personne à la source intérieure où la véritable guérison est attendue. Chers amis, le second problème, celui qui se pose fréquemment aujourd'hui, c'est que lorsque les gens prient pour leur guérison et qu'ils ne sont pas immédiatement exaucés, il se pose cette question, voyons, Dieu a-t-il abandonné ce qui touche à la guérison? Je ne connais au monde aucun centre de guérison où chacun guérit instantanément. Ainsi, Francis McNutt, une des plus grandes figures du ministère de la guérison chrétienne, reconnaît que parmi toutes les souffrants pour lesquels il prie, environ un seul sur deux douzaines guérit instantanément ou miraculeusement. D'autres reçoivent leur guérison après un certain délai, alors que d'autres encore ne guérissent apparemment pas du tout. Par contre, et on peut dire par conséquent, on ne doit pas trop s'inquiéter que la guérison d'une personne ne soit pas immédiatement apparente. Pourquoi les choses ont-elles changé? Il est sûr qu'au temps de Jésus, tous ceux qui venaient vers le Seigneur étaient guéris, oui, miraculeusement guéris. Eh bien, tenez-vous bien, pas du tout, excusez-moi, car nous avons vu dans le livre de Saint Marc, au chapitre 6, versets 5 et 6, que dans sa propre ville, Jésus ne pouvait pas accomplir de miracle. Peut-être a-t-il guéri quelques malades, bien que étant triste de leur incrédulité, on ne peut pas dire qu'il en était joyeux. Je crois que, en Occident, nous vivons dans une atmosphère d'incroyance comparable à celle que a rencontrée Jésus de Nazareth. Mais allons un peu plus loin. Supposons que tous ceux qui viennent à votre église seraient miraculeusement guéris, comme c'était habituellement le cas avec Jésus, et que votre église à vous soit le seul endroit où cela arrive. Eh bien, croyez-moi, les membres de cette église passeraient à la télévision nationale et même internationale, et l'orgueil s'installerait inévitablement. Et ce serait, croyez-moi, la fin du ministère pour cette église-là. Vous pouvez me croire. Vraiment, si tout le monde savait que tous les malades étaient miraculeusement guéris dans votre église, les files d'attente formées par ceux qui attendent la guérison s'étireraient sur plusieurs kilomètres. Mais ils viendraient, écoutez bien la suite, mais ils viendraient que pour la guérison, et non pas pour Jésus-Christ et le salut, surtout le salut de leur âme. Alors la situation serait à nouveau vouée à l'échec, d'après mon expérience. La guérison se développe tandis que nous aidons les malades à progresser dans l'amour guérissant de Jésus et de l'importance du salut qu'il nous offre. Ainsi, je crois qu'il n'existe aucune vraie guérison que celle qui est basée sur l'amour de Dieu à notre égard. C'est pour cette raison que je suis un peu réticent à propos de l'expression « service de guérison » comme s'ils avaient quelque chose de particulier. Plus nous pouvons aider les gens à progresser dans la connaissance et dans l'amour de Dieu, plus nous les libérons pour qu'ils reçoivent la guérison divine. Non seulement chaque culte à l'Église devrait être pour nous un temps où nous recevons une certaine mesure de guérison pour notre âme, esprit et corps, mais encore chaque moment de prière où nous venons au Seigneur devrait être une occasion de recevoir un peu plus de sa plénitude dans notre vie. Il y a un grand avantage pour nous à être indépendants des églises, bien que en leur restant fidèles. De cette manière, les gens peuvent venir tout en sachant que rien de ce qu'ils nous confient ne sera jamais divulgué à leur église. Les églises individuelles, devenant de plus en plus impliquées dans le ministère de la guérison, il est donc essentiel que les gens aient la certitude que rien de ce qu'ils disent à ceux qui prient pour eux ne sera jamais transmis à quelqu'un d'autre. Nous terminons toujours notre conseil en assurant aux visiteurs que c'est dans la période ultérieure de prière que le pouvoir de Dieu se manifestera probablement. Nous devrions commencer tous les services de prière en nous humiliant devant le Seigneur et ensuite administrer son amour. Je répète, nous devrions, moi le premier, commencer tous les services de prière en nous humiliant, je le dis pour moi, en nous humiliant dans le Seigneur, et ensuite seulement administrer son amour pour la guérison. Jésus a dit que notre relation d'amour avec lui est la chose la plus importante dans la vie. Le premier et le plus important des commandements, si l'on veut atteindre la racine du problème d'une personne, eh bien, on doit parvenir à une telle relation avec cette personne, ou à défaut, avec le Seigneur. Si nous pouvons aider les gens à recevoir l'amour de Jésus uniquement pour eux-mêmes, eh bien nous pouvons aussi les aider à avoir une relation plus riche et plus profonde avec lui. Nous leur demandons souvent s'ils pensent mériter l'amour du Seigneur. La réponse est toujours délicate, mais la plupart du temps, ils disent non. Alors pourquoi Jésus les aime-t-il? Chers amis, tout simplement parce qu'il est dans sa nature de nous aimer. Je crois que la promesse de son amour est la seule promesse sans condition qui soit dans la Sainte Bible. Pour paraphraser Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Je suis convaincu que rien, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Nous rappelons les paroles de l'apôtre Jean. Si nous demandons quoi que ce soit en accord avec sa volonté et non pas avec souvent notre égoïsme, il nous écoute et nous savons que nous avons, que nous recevons ce que nous lui avons demandé. Saint Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Chers amis, quand je suis certain que la guérison attendue est en accord absolu avec la volonté de Dieu, alors je peux m'avancer plus loin dans la foi et dans le remerciement. Ne jamais oublier de le remercier de ce que, à l'heure qu'il aura choisi et selon ses propres voies, il donnera la guérison. Soyons comme le seul lépreux sur les 10 qui est revenu en arrière et qui s'est humilié et qui a dit merci. Jésus lui a fait comprendre que ce lépreux-là était le seul qui avait reçu la plénitude totale du salut et de la guérison. Avec cette approche, nous épargnons aux malades une certaine pression et nous montrons une attitude d'humilité devant le Seigneur. Il en est qui prêchent ainsi. Si les gens ne sont pas instantanément guéris en résultat de leur prière, c'est sûrement dû à leur manque de foi ou à quelques péchés impardonnés dans leur vie. Je suis sincèrement désolé pour ceux qui sont écartés sans avoir été guéris et qui sont en plus écrasés de culpabilité. Si du tort peut être causé dans le ministère de la guérison, combien davantage ceci est vrai dans celui de la délivrance. Notre pratique est toujours de supposer qu'une personne n'est pas démonisée tant que nous n'avons d'autre choix que d'admettre franchement qu'elle l'est et qu'elle a besoin de la délivrance. Un tort infini est causé par des exorcistes amateurs trop enthousiastes qui se précipitent sans suivre la conduite du Saint-Esprit. Vraiment, je n'accorde pas foi à de tels services de délivrance. D'après mon expérience, la délivrance est toujours accompagnée d'une nécessaire guérison intérieure profonde. C'était le cas pour moi. Mais le plus important reste le besoin d'édifier les personnes afin qu'elles puissent savoir qu'elles sont en Jésus-Christ et par conséquent se rapporter à la déclaration de l'apôtre Paul, qui dit « Je peux faire toutes choses à travers celui qui me donne la force. » Philippiens, chapitre 4, verset 13. Quand les esprits impurs sentent que la personne qu'ils habitent commence à le savoir, croyez-moi, la purification, elle est à moitié accomplie. Amen. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Et avant, je voudrais répéter que cette série numéro 53, 54 et 55, ainsi que celle d'aujourd'hui, numéro 56, sont des études très élaborées pour ceux qui n'ont pas l'habitude de chercher dans la Bible toutes les citations bibliques au sujet de la guérison. Ces études, très variées, peuvent surtout être utiles pour ceux qui ont reçu dans le cœur, dans leur esprit, de se préparer tout spécialement pour un ministère en plus de celui du salut, pour venir en aide pour ceux qui souffrent. Étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est plus que jamais sujet de tomber malade, raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette des prières qui sont inspirées par son Esprit Saint pour vous permettre de les utiliser et surtout de les adapter à votre situation personnelle. Donc, la prière que nous allons avoir ensemble est en quelque sorte pour vous aider à être guidé dans la prière que vous formulerez selon vos besoins personnels. Prions. Délivre-moi, Seigneur, de toutes les maladies présentes et futures de mon corps et de mon âme à la fois. Donne-moi grâce à ta bonté, à ta paix et santé, et jette sur moi un regard favorable. Durant ma vie, donne-moi la paix et la santé, afin qu'avec l'aide de ta miséricorde, je ne puisse jamais devenir l'esclave du péché. Je t'implore, par le saint nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur bien-aimé, qui est ton Dieu, vis et règne dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec moi. Que cette prière céleste, Seigneur, que tu as laissée à tes disciples, soit toujours avec moi. Que la paix du Seigneur, que son cœur et son sang m'aident, me réconfortent et me protègent dans le corps et l'âme. Ô agneau de Dieu, sacrifié pour le salut du monde, prends pitié de mon corps et de mon âme. Agneau de Dieu, par lequel tous les fidèles qui t'ont accepté comme leur propre sauveur dans leur cœur sont sauvés, donne-moi la grâce et qu'elle reste toujours avec moi dans cette vie. Amen. Amen.